Alors, on va commencer tout de suite par la présentation d'Ivan Martin.
Merci, Delphine. Bonjour à toutes.
C'est vrai.
Oui. Et j'y vais. En fait, quand Delphine m'a demandé de proposer un sujet, j'avais premièrement pensé à des autres recherches plus ciblées que je suis en train de faire, notamment une recherche sur la migration rurale en Tunisie et ses impacts sur le développement rural en Tunisie, ou même un papier que je suis en train de finaliser sur les politiques d'immigration au Maroc, qui aurait assez naturellement couplé la présentation de Khalid. Mais et après, en lisant les titres un peu du séminaire, mobilité, intégration et marché de l'emploi, intégration entre guillemets, on peut peut-être tout à l'heure discuter pourquoi et quelles sont les implications. J'ai pensé que c'était peut-être plus utile au fil de cette thématique de faire un peu un tour d'horizon des publications que j'ai faites et des recherches que j'ai faites depuis au moins 15 ans, en réalité, 10-15 ans. Des publications diverses, des publications académiques parfois, des études commandées à des fonds, disons, des formulations des politiques, des rapports parfois. Et j'ai choisi une douzaine de publications que j'ai faites depuis 2005, en réalité, les publications, même si les recherches remontent parfois 2000-2001. Donc entre 2009 et 2017, aussi parce que ça m'a donné envie d'utiliser en fait cet parcours sur ces publications pour réfléchir moi-même et partager avec vous sur trois questions qui, bien sûr, me tiennent au cœur en tant que chercheur. Et la première, c'est l'analyse de la réalité. Comment est-ce que cette question de la mobilité, l'intégration et le marché de l'emploi évolue en Méditerranée, au nord et au sud de la Méditerranée depuis 15 ans. La deuxième, c'est disons, les soucis scientifiques et méthodologiques de vraiment arriver à saisir la réalité telle qu'il est, au moins et telle qu'on peut la comprendre. Et la troisième, c'est l'interaction entre moi en tant que chercheur et le monde de la formulation des politiques. Parce que pour moi, je ne l'ai jamais caché, il y a des chercheurs qui n'ont un objectif purement de connaissance. Moi, mon objectif comme chercheur, c'était toujours d'essayer d'influencer la réalité. Et pour ça, malheureusement, il faut passer par la politique et par la formulation des politiques, très souvent. Et donc, c'est ces trois moments que je vais analyser au cours de ma présentation. Et vous savez, moi, je laisse la présentation. J'ai listé les 12 publications ici. Je ne vais pas passer en revue. Je vais me référer à quelques-unes d'entre elles plus tard. En tout cas, vous savez, les 12 références dans la présentation PowerPoint avec des liens au texte originel. Donc, vous pouvez vous amuser à lire en tout. Ça doit être une bonne millier de pages. Donc, vous savez, pour les prochaines étés, quelques lectures à faire. Et bon, voilà. J'ai divisé entre 2007, en fait, des études qui remontaient déjà 2004-2005 et 2012. J'expliquerai après pourquoi. Et entre 2014 et 2017, quelques publications. Je vais faire référence à la plupart d'entre elles, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Et les points de départ de ma réflexion, et là, c'est la seule diapositive où je ne vais pas utiliser une référence concrète à une publication concrète, c'est que depuis 2014, j'appelle la paradoxe de la migration du travail en Méditerranée, ou euro-méditerranéenne, qui consiste au fait suivant. D'un côté, toutes les analyses et tous les chercheurs, les recherches, que ça soit scientifique ou disons appliquées, coïncident à estimer que l'Europe a un besoin croissant de main d'œuvre maintenant et dans les décennies à venir. Et pas seulement des main-d'œuvre qualifiées, mais aussi des main-d'œuvre non qualifiées. Je vais substancier ça plus tard. Et ça, même au moment où il y a un chômage structurel très élevé en Europe, qui est dû surtout à des raisons de mismatch, de manque d'accouplement entre la demande et l'offre, mais pas à un excédent structurel des main-d'œuvre en Europe. Donc, il y a un besoin de main-d'œuvre claire, qualifiée et non qualifiée en Europe. De l'autre côté, du côté sud de la Méditerranée, il y a une incapacité également structurelle à absorber la population active, qui a probablement deux raisons complémentaires. D'un côté, bien sûr, les modèles économiques et les modèles de développement qui n'y a pas privilégié la création d'emplois ni qualifiés ni non qualifiés depuis l'indépendance pratiquement, mais aussi une raison purement démographique, c'est la transition. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez pendant ma présentation, je vais essayer de toute façon rester dans les 40 minutes parce qu'on est suffisamment peu pour pouvoir les faire si dynamiques que vous voulez, hein. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Mais donc une raison liée au modèle économique, mais aussi une raison liée à la dynamique démographique. Tous les pays, dans toute l'histoire démographique de l'humanité, au moment de la transition démographique, aussi ont eu une période d'entre 30 et 100 ans d'expulsion de main-d'œuvre. Ça, c'était comme ça en Europe, et maintenant, c'est comme ça au Maghreb, et plus en général aux pays arabes méditerranéens. Et ça commence à être le cas dans l'Afrique subsaharienne. Et en même temps, donc, il y a, disons, dans ce sens, un excédent de main-d'œuvre dans les pays du sud de la Méditerranée. Et en même temps, il y a des bons arguments pour soutenir que la stabilité européenne dépend, entre autres questions, de la stabilité sociale et politique dans les pays du sud de la Méditerranée. Ces trois prémices nous amèneront à dire, voilà, il y a tous les éléments pour organiser la migration du sud vers le nord pour satisfaire les besoins des uns et des autres. Or, ce qu'on voit en réalité, c'est exactement le contraire. Les flux migratoires du travail sont très, très limités, et surtout pour les pays arabes méditerranéens, plus que pour des autres régions, par ailleurs. L'Union européenne est incapable et de plus en plus incapable d'attirer des migrants qualifiés. On va revenir sur ça si vous voulez tout à l'heure. Et il n'y a pratiquement pas des instruments de migration légale mis en œuvre par les États membres de l'Union européenne qui permettent justement d'organiser ces migrations. Et la raison principale, bien sûr, je veux développer ça dans le reste de la présentation, c'est une surdétermination de la politique migratoire, de migration du travail, par des considérations sociales et politiques, évidemment. Mais c'est ça, cette surdétermination qui est à la base de la capacité, ou plutôt l'incapacité de mes recherches en tant que chercheur, d'avoir un impact sur les politiques migratoires européennes vers les pays arabes méditerranéens depuis 15-20 ans. Donc voilà cette paradoxe qui me semble un bon point de départ pour décliner cette dynamique du gagnant-gagnant au perdant-perdant. Ici, je ne vais pas m'attarder, quand parfois j'ai copié des slides, des diapositives avec beaucoup de textes. Je ne vais pas décliner, c'est juste, j'ai pris d'ailleurs comme exemple des choses qui sont faites. Ça correspond à une publication en 2010. Ça, purement des plaidoyers, dans les publications, vous pouvez voir des publications académiques, des publications pour des commanditaires publics, Commission européenne, Agence européenne, etc. Et aussi, ça c'est le seul cas, je pense, où il y a une publication commanditée par la société civile pour défendre des plaidoyers. En tant que chercheur, on a mis ensemble une équipe de chercheurs Et là, on a constaté qu'entre 1995, la première sommet de Barcelone et la deuxième sommet en novembre 2005, et 2010, au moment où on faisait la publication, c'est 20 plus 10, 30 propositions pour développer une véritable dimension sociale du partenariat euro-méditerranéen, et on a passé d'une approche de complémentarité et de partenariat, vous avez des textes qui substancient ça, on a même envisagé le développement d'une stratégie commune euro-méditerranéen et sur l'emploi et sur l'immigration, avec une conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur la migration en 2007, et avec trois conférences successives sur l'emploi, mais très cacophoniques dans le sens que seulement la première a vraiment exploré des nouvelles voies de mutualisation des politiques d'emploi en Méditerranée. Les autres deux étaient plutôt des exercices diplomatiques vides. Donc on a passé du partenariat, de la complémentarité, carrément à la conditionnalité de la politique européenne de voisinage, qui était déjà esquissée dans les premières ébauches de la politique européenne de voisinage en 2003, mais qui a été effectivement opérationnalisée à partir de 2010 et encore plus à partir de 2014-2016 avec les nouveaux Migration Compact et les partenariat 4 sur des questions migratoires, où on a, comme je n'ai pas encore publié sur ça, je n'ai pas voulu l'intégrer ici, mais on a renversé la logique de la conditionnalité et c'est tout l'aide au développement de plus en plus qui conditionne à la performance des pays partenaires en matière de contrôle des migrations. Je vais revenir sur ça. Donc, ça, c'est les quatre, disons, des coopérations régionales euro-méditerranéennes qui a servi un peu de substrates, on dit
Substrates,
pardon, et des substrats à cette évolution du gagnant-gagnant ou perdant-perdant, et d'une approche complémentaire, de complémentarité. Et une ambition régionale de l'Union européenne, vraiment de créer un espace de prospérité en Méditerranée, à une vision beaucoup plus unilatérale, basée sur la conditionnalité et, je dirais, défensif et réactif, qui on a vu très clairement après les printemps arabes et les successifs changements de position de l'Union européenne. La vision gagnant-gagnant, on peut l'avoir de beaucoup de façons. Moi, j'ai choisi de la prendre de cette publication qu'on avait fait dans un livre de Bishara Hader qui s'appelait justement « Win-win match of labor demand and labor supply across the Mediterranean ». Alors, rapprochement gagnant-gagnant de la demande et l'offre d'emploi à travers la Méditerranée. Et dans cet article, j'élaborais cette deux graphes sur la base des données d'un rapport qui avait été publié par la Banque mondiale en 2009. Et à gauche, vous avez les évolutions de la demande d'emploi, du déficit de la main-d'œuvre européenne, de la offre par rapport à la demande d'emploi. Ça ne marche pas, les... Ah, parce que c'est trop loin, je pense. Bon. Non, c'est l'écran. Non, ça fonctionne, mais les marqueurs ne pointent pas. OK. Et à gauche, vous avez l'évolution de la les déficits de main-d'œuvre européenne jusqu'à 2040, 2050. Voilà, c'est les années successives. De 2005 à 2050. Chaque couple de barres, c'est 5 années. Et vous voyez là, à gauche, les barreaux en bleu foncé, c'est le déficit des main-d'œuvre européenne. Et sur les années successives, vous voyez comment c'est 2020-2030 que le déficit va être le plus aiguë, ça va diminuer après. Et ça, c'est pour les la main d'œuvre moyennement qualifiée. Il y a des exercices pareils pour la main d'œuvre hautement qualifiée et avec une basse qualification. Et vous voyez en bleu plus clair l'excédent des main d'œuvre dans les pays arabes méditerranéens. En fait, c'est pas les arabes méditerranéens, c'est les pays MENA. Parce que c'est les données arriérées que les banques, la Banque mondiale donnait, et les excédents sur la gauche année, sur période de 5 années sur 5 années. Les graphes de la gauche, c'est sans investissement d'éducation, avec les politiques éducatives sans variation par rapport aux politiques des débuts des années 2000, et à la droite, c'est avec un investissement éducatif massif qui permet d'augmenter la main-d'œuvre avec les qualifications moyennes aux pays MENA, aux pays arabes et du Moyen-Orient, et qui donne lieu, bien sûr, comme vous pouvez voir, un excédent des main-d'œuvre moyennement qualifiées beaucoup plus élevé. Alors, à condition de cet investissement dans la politique éducative des pays MENA, vous voyez qu'il y avait des possibilités au moins agrégées, bien sûr, à niveau agrégé pour l'ensemble de la population, de combler les déficits de main-d'œuvre moyennement qualifiée de l'Union européenne par l'excédent qui pourrait être généré par ces pays MENA grâce à ces investissements éducatifs. Et c'était juste une façon de montrer cette complémentarité possible, que, comme on va le voir, bien sûr, n'a pas eu lieu par la suite, parce que ni les investissements massifs dans les politiques éducatives ont eu lieu, ni les politiques migratoires de l'Union européenne ont permis, en fait, d'avancer dans cette voie de complémentarité. Donc, voilà, pour ça, j'ai mis un nom gagnant-gagnant. À partir de 2005, j'ai coordonné, en fait, parce que c'est jamais moi qui a fait, c'est toujours moi qui a coordonné 5 études régionaux différentes. Et c'est intéressant parce que dans tous ces études régionaux, il y a une série de constants qui émergent, que je veux décliner par la suite. Les premières, c'était emploi et droit du travail, en fait, l'emploi et les partenariats euro-méditerranéens élaborés pour les forums syndicaux euro-méd et l'Agence espagnole de coopération en 2004-2006, on a publié en 2007, et ça avait la valeur d'être les premières rapports régionaux sur l'emploi élaborés en Méditerranée. Il fait 10 ans, mais à l'époque, il n'y avait rien. Même la Banque mondiale, personne n'avait produit des rapports régionaux sur l'emploi. Et ce n'était pas une question si pressante dans l'agenda politique comme c'est le cas aujourd'hui. Le deuxième, c'est un rapport, en fait, une série d'études nationaux, une étude régionale pour la Commission européenne sur les marchés de l'emploi et les flux migratoires dans les pays arabes méditerranéens, qui a été publiée par l'Union européenne par la suite. Les troisièmes et les quatrièmes sont deux études aussi comparées pour la European Training Foundation sur l'emploi et l'employabilité des jeunes dans les pays méditerranéens, au nord et au sud, et sur les mesures de soutien aux migrants dans les pays d'origine pour faciliter leur intégration dans les marchés de l'emploi dans les pays de destination. Je vais revenir sur ça parce que c'est la question de l'intégration. Et les dernières, c'est tout récent. C'est 2016, publié en 2016. C'est une étude comparée, élaborée à l'Institut universitaire européen de Florence, une étude comparée des mesures de soutien à l'intégration des réfugiés récents arrivés en 2015 en Europe, dans les marchés de l'emploi européen. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces derniers cas, pour la première fois, on n'y a pas réussi à avoir des financements pour étendre l'étude au-delà de l'Union européenne. Il y a, de la même façon qu'il y a un unilatéralisme croissant de la politique de coopération de l'Union européenne envers ses voisins du Sud, il y a un manque d'intérêt, un repliement croissant On a voulu, et on a proposé, en fait, les financements venaient de la Fondation Bertelsmann, les Salomon. On a voulu étendre l'étude au Liban, la Jordanie et la Turquie, qui ont des expériences très intéressantes aussi d'intégration dans les marchés et l'emploi des réfugiés. Et ils ne sont pas voulu. Ils ont dit, non, 9 États membres de l'Union européenne, avec des études nationaux, mais pas des pays au-delà, alors qu'il s'agit des mêmes réfugiés. C'est pour ça que j'ai inclus cette dernière étude, parce que pour moi, c'est significatif de l'évolution un peu des esprits sur cette question. Et par la suite, autour de la question des défis de l'emploi et de la mobilité, je veux décliner quelques efforts qu'on a fait dans différentes de ces études, justement pour quantifier et montrer et la nature et la magnitude de ces défis. Les premières, c'est une estimation des besoins de création d'emplois dans les pays arabes méditerranéens. Pour faire ce tableau, on a pris plus d'une année. Ce qu'on voulait juste savoir, on l'a fait en 2009-2010, avec des données qui arrivaient, je pense, jusqu'à 2008. Et on a fait des projections jusqu'à 2020. L'avantage de faire des projections si courtes, c'est que les possibilités de se tromper à cause des aléas démographiques, c'est très bas. Parce que les personnes qui vont accéder dans 15 ans dans les marchés de l'emploi sont déjà nées. Alors, sauf une catastrophe, une épidémie ou une guerre massive, en principe, on ne se trompe pas. Et je vais parler de ça. Là, on a estimé qu'entre 2009 et 2020, il y avait 1,5 million de besoins additionnels de création d'emplois par rapport aux emplois créés actuellement dans les 9 pays arabes méditerranéens qu'on a étudiés. Et si on comptait avec une croissance très limitée du taux de participation des femmes dans les marchés de l'emploi, qui est, comme vous le savez, les plus basses du monde, avec entre 22 et 24% de la population en âge de travailler féminine. Et ça arrivait jusqu'en 10 ans, pendant cette période de 10 ans, un demi-point pourcentual d'augmentation du taux de participation des femmes dans les marchés de l'emploi, ce qui était consistant avec la tendance qu'on apprécie. On aura besoin de 1 million, pratiquement 800 000 emplois additionnels dans les pays arabes méditerranéens par année. Par année. Ça, ça a été un outil de plaidoyer, je dirais, très très puissant, parce qu'en parallèle dans l'étude qu'on avait fait avant les emplois et les partenariats méditerranéens, c'est lui, les premières, on avait démontré que la coopération de l'Union européenne dans les pays arabes méditerranéens était très, très faible dans le domaine de l'emploi. Pratiquement, on ne faisait rien dans ce domaine à l'époque. Et ça a causé, en réalité, une note de la Commission européenne expliquant tout ce qu'il faisait. Il ne faisait pas beaucoup, mais juste stratégie défensive. Et c'est vrai que ça a initié une tendance à un focus de plus en plus important sur les politiques d'emploi et la création d'emplois dans la coopération de l'Union européenne dans la région. Et en tout cas, je veux nuancer ces chiffres et ce tableau tout à l'heure. J'ai extrait de cette publication ce tableau parce que ça reprenait joliment, je pense, les défis de l'emploi en Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée. Un deuxième tableau. Et ça, dans une publication purement académique que j'ai travaillé pendant une année au Collège d'Europe à Anatolie, en Pologne, et notamment sur un programme de recherche sur les politiques de voisinage. Et là, on a publié un livre sur les défis de la politique européenne de voisinage. Et dans un chapitre, justement, sur les défis sociaux et économiques dans les pays arabes méditerranéens et la réponse de la politique européenne de voisinage, j'ai élaboré ces tableaux sur les rythmes de convergence, parce que justement, on avait déjà démontré que les partenariats euro-méditerranéens n'étaient pas en train de répondre, et encore moins de répondre de façon satisfactoire aux besoins de création d'emplois. Et il fallait expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, à part de la coopération, que c'est une partie très marginale des flux économiques. Et là, on a analysé la convergence entre les pays arabes méditerranéens et les pays européens, notamment les pays de l'Europe, pour éviter les distorsions introduites par les pays de l'Est, qui ont des niveaux de revenus beaucoup plus bas. Et là, on a pris les... Là, ça marche, mais là, ça ne marche pas. Bon. Et on a pris les 8 pays arabes méditerranéens. Vous savez en bas les Arab Mediterranean Countries, les pays arabes méditerranéens. On a pris les revenus par tête en parité de pouvoir d'achat pour chacun de ces pays. On a pris la zone euro et on a comparé les... j'ai dit « on », mais c'est moi qui l'ai fait en réalité. Et j'ai comparé les deux pour calculer les pourcentages du revenu par tête en parité du pouvoir d'achat de chacun de ces pays par rapport à la zone euro. Vous voyez que pour l'ensemble des pays arabes méditerranéens en 1995, c'était 16%, donc à peu près 6 fois plus dans la zone euro que dans les pays arabes méditerranéens. Et vous pouvez voir comme entre 1995, l'année du partenariat euro-méditerranéen, et 2000, ça a en réalité diminué un peu, jusqu'à 15,7%, et ça a augmenté jusqu'à 2010, jusqu'à 18,8%. Et jusqu'ici, c'était pas un outil très puissant pour démontrer la magnitude des défis. Par contre, ce qui est fait, c'est calculer à cet rythme de convergence par an combien des années il faudrait pour chacun des pays arriver à 50% du moyen de la zone euro. Donc, à peu près le niveau de la Bulgarie. Et là, on a trouvé des résultats très intéressants. Pour l'ensemble des pays arabes méditerranéens, c'est 168 années pour arriver à 50%. Pour le Maroc, c'est 189 années. Pour l'Algérie, c'est 291 années. Donc, ça transformait une analyse purement numérique à un outil puissant pour dire, voilà, évidemment, en termes de convergence non plus, les cadres de coopération euro-méditerranéens est en train de répondre aux défis de l'écart des revenus entre les pays du Nord et du Sud. Pour compléter cette analyse, dans la même publication en réalité, j'ai comparé les quantités déjà réservées, parce que la publication était faite en 2011, et vous voyez dans les colonnes de la droite qu'il y a 2011-2014. J'ai comparé donc les euros par tête de toute l'aide communautaire octroyée à chacun de ces pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie et le Liban. Vous voyez 6,2 euros par tête et par an au Maroc, 8 euros par an et par tête à la Tunisie, 1,8 euros par an et par tête à l'Égypte, ainsi de suite. Et j'ai comparé ça avec la quantité maximale auquel ces pays auront droit si on appliquerait les règles des fonds structurels européens, qui à ce moment disaient que les fonds structurels dont bénéficie un pays, un État membre, ne peuvent pas dépasser 4,25% de son PIB total. Donc j'ai pris le PIB de ces pays, j'ai appliqué les 4,25% et on arrive à les quantités que vous savez dans la deuxième par la droite, colonne par la droite, au lieu de 6,2 euros par tête et par habitant pour le Maroc, 75 euros pour habitant par habitant et par année. Et à la Tunisie, au lieu de 8, 104 euros, etc. Juste pour démontrer qu'à l'évidence, l'Union européenne était en train de se prendre au sérieux le développement du pays du Sud, la convergence, la création d'emplois et donc la réponse aux défis de l'emploi. Ici, je passe un peu de la description des défis et comment j'ai approché ça dans mes publications à des questions très rapidement, on peut discuter après, plus méthodologique, avec seulement deux ces slides qui m'intéressent beaucoup. La première, ce n'est pas méthodologique du tout. En réalité, dans toutes ces études, j'ai choisi trois, mais vous pouvez voir tout. La première conclusion forte, c'est qu'on ne pouvait pas arriver à des conclusions. Il n'y a pas des données suffisamment systématiques, historiques en termes de séries temporelles, et fiables et complètes pour faire n'importe quelle analyse quantitative et même pour faire une analyse qualitative basée sur des chiffres fiables sur les marchés de l'emploi dans ces pays-là. Et ça, on l'a constaté un rapport après l'autre, sans beaucoup d'impact. Et ça a des implications très importantes. En réalité, ça empêche un économiste, moi je suis un économiste, ça empêche d'appliquer les outils qui sont considérés standards d'analyse économique de la réalité, qui sont des outils quantitatifs. Et ça condamne celui qui emprunte cette démarche à la marginalité professionnelle. En fait, c'est très intéressant parce que parfois, dans des équipes de recherche sur des autres questions, parfois sur cette question aussi, les économistes me disaient non, mais tu ne peux pas figurer comme économiste, tu n'es pas un économiste. Tu ne fais pas l'économie quantitative, tu n'es pas un économiste. Alors, en réalité, ce qui signifie, c'est qu'à ces jours, aujourd'hui, la production de la recherche scientifique sur ces questions qu'on est en train de traiter est très, très sous-développée par rapport à des autres questions beaucoup moins importantes en termes de dynamique historique et politique dans la région, à cause justement de la manque de données, des bases de données et d'informations suffisantes. Et ça ne s'applique pas seulement, ça risque de changer légèrement, ne s'applique pas seulement au marché de l'emploi dans les pays du Sud et aux migrants dans les pays du Nord. Ça s'applique aussi, et maintenant c'est très clair, aux réfugiés, l'intégration des réfugiés dans les marchés de l'emploi en Europe. En réalité, on a voulu estimer à plusieurs reprises dans les Migration Policy Center, je pense que tu étais encore au Migration Policy Center quand ils ont commencé à travailler avec Interact. Moi, j'étais à la fin. Et c'est très intéressant parce que, à nouveau, on y arrivait à la conclusion qu'on ne pouvait pas faire d'analyse quantitative de l'intégration des migrants dans les marchés de l'emploi européens parce qu'on n'y a pas les données. Et la raison principale, c'est que l'enquête des populations actives de l'Union européenne, qui est l'outil fondamental des connaissances de la main-d'œuvre en Europe, a des défauts, des défaillances considérables par rapport au phénomène de la migration. Déjà, il y a un module migration qui n'est passé que tous les 6 ans. Donc, on avait jusqu'à ces jours, aujourd'hui encore, il fait 6 mois. On continue à travailler avec des données de 2008. C'est les dernières données que l'enquête des populations actives produit de façon plus ou moins systématique sur les travailleurs migrants en Europe. En 2014, on a fait les modules à nouveau et il est en train d'être exploité. Il y a déjà quelques publications très limitées encore sur ça. Mais ils sont des données qui correspondent, l'enquête des populations 2014 correspond avant la crise. Donc, il faudrait attendre à 2020 pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer avec les réfugiés, déjà 2 600 000 réfugiés arrivés au marché de l'emploi et aux sociétés européennes dans les deux dernières années. Et ça, même ces modules migration ne saisissent pas que les canaux de migration. L'enquête des populations actives ne pose pas de questions sur les parcours professionnels. Il pose des questions, bien sûr, elle pose des questions sur la qualification et sur les qualifications, pas sur les compétences, mais pas sur les parcours professionnels. Alors, on ne peut pas établir des critères, des sous sous-utilisation des compétences et des qualifications, mais on ne peut pas établir un lien entre la, les parcours professionnels avant la migration des migrants et ce qu'ils font dans les marchés de l'emploi en Europe. On n'y a pas de données désagrégées par nationalité. L'enquête des populations actives donne les migrants, les non-migrants, les migrants par canon d'entrée pour les modules migratoires, mais pas désagrégés par nationalité. Alors on ne peut pas faire des comparaisons croisées entre la performance dans les marchés de l'emploi des Afghans, des Marocains et des Chinois, par exemple, pour donner un exemple que j'ai donné. Je peux m'attarder sur ça parce que j'ai beaucoup travaillé justement sur les Chinois et les Marocains. Je ne vais pas les faire. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que comme les réfugiés, ça touche les cœurs des intérêts politiques européens, il y a une multiplicité de nouvelles enquêtes qui sont en train d'être produites à niveau national, partielles, et par des différents acteurs, parfois les instituts de statistiques, parfois des instituts de recherche, mais sans une logique méthodologique cohérente à niveau européen qui permet les comparaisons. Alors, on va avoir dans 2 ou 3 années un accès à une multiplicité de sources d'informations, mais avec des problèmes de comparabilité très importants qui encore empêchent de parler d'intégration. Et là, c'est une interprétation possible de Guillemet, que ce n'est pas la tienne, je suis sûr, mais qui est importante. Et je laisse ça parce que je ne vais pas prendre plus de 5 ou 10 minutes de plus comme au maximum. Sur les questions méthodologiques, on peut revenir, mais pour moi, l'effet qu'on n'investit même pas à développer un outil statistique bien développé pour analyser les phénomènes de la migration du travail en Europe montre très clairement que ce n'est pas une question prioritaire réelle. Et qu'on ne va pas les faire pour les pays du sud de la Méditerranée, si on ne les fait pas pour les pays européens même. 3 exemples de logique de plaidoyer, et là j'entre dans la 3e question, de quelle capacité et comment d'influence on a sur la formulation des politiques à partir de la recherche scientifique, au moins académique. 3 exemples très rapides, des initiatives, je dirais, des plaidoyers qu'on a fait dans cette publication sur la base des résultats des recherches et autour des politiques possibles. Une première, justement, dans cette publication dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était la proposition du développement d'une stratégie euro-méditerranéenne sur la mobilité, la migration et l'emploi. Et vous avez là quelques éléments possibles, si ça vous intéresse. Vous avez tout un chapitre de ce livre sur ça. Évidemment, c'est très intéressant parce que cette stratégie euro-méditerranéenne sur l'emploi, la mobilité, l'emploi et la migration, pardon, c'est ancré et basé sur la logique des complémentarités et la logique gagnant-gagnant. Mais c'était proposé au moment où cette logique était clairement dépassée, notamment par les passages des partenariats méditerranéens à l'Union pour la Méditerranée, et la crise en Europe et l'écroulement des ambitions, je dirais, parce que plus que des ambitions, on n'avait jamais, du partenariat euro-méditerranéen. Premier essai, échoué. Deuxième essai, un autre dans les cadres, j'étais expert pour un projet régional Euromed. C'est Euromed Migration 3 qui met ensemble des praticiens et surtout des responsables politiques des différents pays du nord et du sud de la Méditerranée pour discuter questions d'emploi, y compris, questions de migration, y compris de migration du travail. Et là, il dit, bon, OK, on accepte que le contexte politique ne permet pas la libre circulation des personnes en Méditerranée. On comprend ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que malgré cette non-libre circulation des travailleurs, on peut intégrer les marchés de l'emploi au nord et au sud de la Méditerranée pour assurer une complémentarité entre ces marchés et l'emploi, entre l'excès d'offres d'un côté, l'excès de demandes de l'autre côté. J'ai identifié 5 chaînons manquants qui permettraient, et des actions de politique régionale, je dirais, et qui permettraient justement de dépasser la logique de la libre circulation des travailleurs par une logique de mobilité ciblée de certaines catégories de travailleurs dans certaines cadre de migration légale pour avancer au moins dans la complémentarité entre les marchés et l'emploi. Je ne vais pas décliner parce que, si vous voulez, on revient sur ça tout à l'heure. En tout cas, clairement, ce n'est pas ça la logique aujourd'hui du tout. On continue à être en échec par rapport à la formulation des politiques. Oui, les troisièmes, c'est dit, bon, ok, allez, vous ne faites pas des mesures actives de promotion de la migration légale pour assurer cette complémentarité. Encore moins, la libre circulation est une stratégie commune. Mais au moins, il faut admettre qu'il y a un besoin des migrants non qualifiés en Europe. Parce que les discours dominant aujourd'hui, c'est oui, parfois on a besoin de migrants qualifiés pour des professions très ciblées, mais on n'a pas besoin de migrants non qualifiés aussi parce qu'on a les réfugiés, etc. C'est la politique explicite, par exemple, de l'Italie, mais il y a des autres pays avec exactement cette logique. Et ça se reflète dans les politiques migratoires qui permet de façon très marginale la migration légale du travail qualifié, mais pas la migration non qualifiée. Et là, on a simplement pris les publications de l'Union européenne, bon, il y a tout un discours derrière dans les deux publications que vous savez. Pour les parlements européens, il y a une publication de l'Institut Université européenne. Je ne sais pas si tu avais participé à ça. Non, sur les stéréotypes, tu n'étais plus à Florence. OK, c'est une publication collective qu'on a fait à l'Institut. Mais là, on a identifié les 20 occupations identifiées par la Commission européenne comme bottlenecks, comme on dit en français, bottlenecks. Non, c'est des professions en tension, c'est la terminologie utilisée par les Pôle emploi, c'est des professions en tension où il y a un excédent de demandes par rapport à l'offre des travailleurs pour ça. Et on a identifié que pour les 20 occupations en tension, disons, où il y a une demande claire et avérée et exprimée par les employeurs, 10 sont des professions non qualifiées. Seulement les autres 10 sont des professions qualifiées. Et encore, ça ne se traduit pas aujourd'hui. Par exemple, l'Union européenne a proposé en 2016 une révision de la carte bleue, de la directive sur la carte bleue, mais rien sur la migration non qualifiée. Donc encore un troisième essai de plaidoyer échoué et qui montre qu'au moins mon approche sur la durée pour essayer d'avoir une entrée dans la formulation des politiques, n'a pas réussi. Je termine avec deux slides, je pense. La raison principale, évidemment, de ça, c'est la surdétermination politique, je l'ai mentionné avant. La crise économique a canalisé vers l'immigration beaucoup de tensions sociales et économiques dans ces pays. Et ça a cristallisé au printemps 2015. L'Eurobaromètre publié au printemps 2015, c'est le premier Eurobaromètre de l'histoire où 38% des inquiétés manifestaient que leur principale préoccupation était l'immigration. Alors que seulement une année avant, 2014, il y avait seulement 24. En réalité, dans 20 des 27 pays, parce que on ne fait pas dans tous les pays, 20 des 27 pays de l'Eurobaromètre, l'immigration figurait comme la principale préoccupation, bien avant la crise économique et l'emploi, qui étaient traditionnellement les deux principales préoccupations. Donc, et là en bas, vous avez un autre graphe qui montre les pourcentages de la population des différents États membres, vous voyez de l'Hongrie à gauche à la Suède à droite, qui considèrent que la politique migratoire doit essayer de ne pas permettre l'arrivée d'aucun ou très peu de migrants. Donc, et même en Allemagne, etc., vous voyez, il y a plus de 30% de la population qui, malgré ce qu'ils disent toutes les analyses économiques, considèrent au moins 30% qu'il faut faire une politique migratoire très restrictive. Et dans les cas des pays comme Portugal, Hongrie ou la République tchèque, c'est plus de 55-60% de la population avec ces opinions. Qui on peut synthétiser, nous n'avons pas besoin des migrants. Quel est le résultat de ce manque de volonté politique ou de mobiliser les moyens à la hauteur des ambitions de cette stratégie gagnant-gagnant qu'on avait entamée à la fin des années 90 et cette crise économique convertie aussi en une crise d'immigration dans la mesure où il y a une mobilisation claire de l'opinion publique en contre de l'immigration. Bon, les résultats, c'est la situation actuelle où on peut argumenter qu'on est dans une situation perdant-perdant. Et il y a ça, on décline dans ces deux publications que j'ai là sur la gauche. Dans les tableaux en dessus, vous savez l'évolution des quatre principales canaux d'entrée des immigrants à l'Union européenne. La famille, à gauche, les étudiants, le travail et autres, que c'est notamment les réfugiés, l'asile. Année par année, chaque barreau en couleur différente, c'est l'année. Vous voyez que la famille a resté plus ou moins est stable, les études aussi. Par contre, il y a eu une diminution dans les 5 années depuis la crise, justement, de la migration légale du travail. On a passé de 800 000 à 400 000, une division par deux, et bien sûr, une augmentation des autres, donc des réfugiés, qui est beaucoup plus importante si on considérerait 2015 et 2016. Là, la dernière les derniers chiffres dans cette graphe, c'est 2014. Okay? Donc, ça serait beaucoup plus exagéré. Pourquoi est-ce qu'on peut parler des perdants-perdants? J'ai fini avec ça. Ça, c'est la figure en bas. C'est une figure prise d'un rapport récent de l'OCDE qui montre les patrons d'intégration dans les marchés de l'emploi. Intégration dans les marchés de l'emploi signifiant avoir un emploi, rien d'autre. Pas une mesure très sophistiquée, mais avoir un emploi justement de ces quatre catégories, les réfugiés, les migrants de travail, les étudiants et la famille. Et on voit que pour les réfugiés, la famille c'est une ligne discontinue, et les réfugiés c'est une ligne continue avec des cercles noirs, et ça prend pratiquement 20 années d'arriver à des niveaux d'intégration dans les marchés de l'emploi équivalent à ceux des travailleurs qui arrivent comme migrants de travail, comme travailleurs migrants en Europe, ou encore plus des étudiants qui, à partir des 5 à 9 années, s'intègrent comme les travailleurs qui arrivent comme migrants du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est incapable d'attirer des migrants qualifiés, est en train d'attirer des migrants qui s'intègrent très mal dans les marchés de l'emploi, et donc n'y a pas une politique migratoire qui est capable de répondre aux besoins même de son marché de l'emploi, pour ne pas parler des autres considérations. Première question. En plus, elle a un problème sérieux de crédibilité vis-à-vis les partenaires, notamment les partenaires du Maghreb, et une manque de crédibilité qui a tué les partenariats pour la mobilité. Vous vous souvenez, il fait 2-3 années, on parlait du partenariat pour la mobilité partout. Maintenant, même dans les déclarations officielles bilatérales, ils sont disparus. Pourquoi? Parce que les pays partenaires ne considèrent pas du tout que ce soit un cadre utile pour la gestion même de la discussion sur les questions migratoires, puisqu'il n'y a rien, rien du tout sur la migration légale. On peut discuter de ça aussi. Pour les Marocains, donc, c'est clairement une stratégie perdante pour l'Europe en termes de crédibilité, en termes de politique migratoire. C'est une stratégie perdante aussi pour les pays du Maghreb notamment, parce qu'ils sont incapables de justement placer une partie de cet excédent de main-d'œuvre causé par la transition démographique. Et je sais que je suis conscient que ce concept d'excédent de main-d'œuvre peut être très critiqué, mais pour moi, dans en cas de transition démographique, c'est une réalité historique. Deuxième élément, ils souffrent en réalité une fuite des cerveaux justement à cause de cette focalisation des politiques migratoires du pays du Nord, pas seulement l'Union européenne, beaucoup plus le Canada, l'Australie ou les États-Unis, sur la migration qualifiée. Et là, dans une des études, on avait fait tout un chapitre pour essayer justement d'évaluer dans quelle mesure les pays arabes méditerranéens souffraient de la fuite des cerveaux. On a conclu qu'au Liban et au Maroc, c'est le cas, dans certains secteurs au Maroc. Dans les autres pays, pas tellement, parce qu'ils sont trop de migrants qualifiés, donc ils perdent pas grand-chose quand ils partent. Mais au Liban et au Maroc, oui. Et surtout, ils souffrent les conséquences, maintenant, les pays du Maghreb, de cette externalisation de la politique migratoire et de la politique d'intégration. Et là, je veux faire un peu les liens avec la présentation de Khalid tout à l'heure. On va discuter tout à l'heure après sa présentation, mais une des interprétations possibles, c'est que le problème d'intégration des migrants a été aussi externalisé. Et maintenant, c'est le Maroc notamment qui doit faire face au défi de l'intégration des migrants subsahariens et au lieu de l'Europe, comme c'était le cas jusqu'au moment. Je m'arrête là. J'étais un tout petit peu plus long que prévu, mais pas beaucoup. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour clarification, discussion et même critique très forte. Merci.
Merci beaucoup, Ivan, pour cette présentation passionnante, où tu montres que un certain nombre de recommandations peuvent être faites et ont été faites, qui finalement ne sont pas écoutées, du fait de cette surdétermination politique dans la prise de décision concernant la migration. Et puis tu soulignes, et ça c'est particulièrement intéressant également, ce manque crucial de données, finalement, qui limite le travail et le rôle du chercheur. Alors, on va peut-être prendre alors juste quelques questions qui concerneraient vraiment très particulièrement la présentation d'Ivan, sachant que les autres questions qui peuvent être plus transversales, notamment sur l'intégration, sur le lien entre travail, mobilité, etc., on les garde pour après, après l'intervention de Khalid. Commençons par des questions peut-être concrètes.
Vous vous présentez rapidement.
Oui,
juste.
Très bonne, oui.
Alors, donc, je suis Béatrice Mézini, je travaille au CNRS et je travaille notamment sur les migrations dites déqualifiées dans l'agriculture. Alors, première chose où je m'inscris un peu en faux, l'immigration légale des travailleurs non qualifiés, elle continue par le biais de l'OFI, tout simplement. Et on a encore des entrées importantes par le biais de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les secteurs en tension de notre économie française. Hein, les 11 secteurs en tension dont les secteurs sont redéterminés par décret annuellement. Alors, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, autre canal aujourd'hui de migration légale, dont vous n'avez pas parlé, les entreprises de travail temporaire, le détachement, le fameux détachement, je travaille là-dessus depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les migrants en Espagne, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, peuvent s'employer sur le marché français par le biais des ETT qui se sont énormément développés, notamment dans le secteur agricole en Espagne, mais pas que le secteur agricole, où on a là typiquement des travailleurs extra-communautaires qui n'auraient pas accès
au marché du travail européen et qui, par le biais de ces ETT, vont avoir libre accès, là encore, à nos secteurs en tension et à l'activité dite déqualifiée. Troisième chose, la directive permis unique en Europe, avec quand même l'idée d'améliorer les mobilités et les migrations avec les pays, notamment aussi du sud et de l'est de la Méditerranée, avec une sécurisation pendant 3 ans de leur titre de séjour, mais aussi l'obligation de maintien de leur résidence principale dans les pays d'origine afin de ne pas avoir à associer tous les droits. Dernière chose, les effets de ces migrations sur nos propres marchés de l'emploi, avec la question de l'égalité de traitement, la question de la dérégulation des droits fondamentaux qui leur sont appliqués ou pas, sachant qu'ils ne sont pas payés les mêmes prix que les autres, ils n'ont pas les mêmes droits fondamentaux, et que l'Europe, quand même, disons-le, est aussi responsable de ça. Elle a exclu de la directive permis unique les saisonniers et les détachés, d'accord, qui, eux, n'auront que éventuellement pour lesquels il faudra tendre à une application de la directive de 96. Point. Pour le reste, tout ce qui est la réflexion en termes d'égalité de traitement, donc au fond aussi une migration de gens dits déqualifiés, dont d'ailleurs les profils montrent qu'ils sont parfois surqualifiés, de surcroît, mais qu'ils s'emploient dans ces secteurs-là parce que ça leur donne une base d'arrivée légale en Europe, quitte derrière à changer de secteur. Voilà. Peut-être Manu pour compléter. Vous répondrez peut-être.
Ah. Je suis Emmanuelle Héliot, j'ai fait une thèse sur la contratation d'un origen de saisonnière marocaine dans la fraisiculture intensive à Huelva. Et donc, du coup, à chaque fois que je vois ce volet de management de la migration, on va dire, européen, euro-méditerranéisé, je me pose la question de ce qui motive vraiment les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, parce qu'on sent que derrière, il y a une volonté, quelque part, je ne sais pas laquelle, d'essayer de se dire qu'il y a une potentielle rencontre entre des marchés du travail. Alors, je ne sais pas quelle est la théorie économique qui peut y avoir derrière ces représentations-là. Mais en fait, d'un point de vue extérieur, ce discours, en tout cas d'un point de vue sociologique, quand on fait du terrain, ce discours, il a des conséquences concrètes sur des marchés du travail extrêmement précarisés, qui mettent des personnes dans des situations de dépendance à l'employeur et de contrôle de la mobilité qui rappellent des périodes historiques pas si lointaines, mais en tout cas où on n'était pas dans une liberté d'allocation sur le marché du travail. Et par conséquent, je me demande toujours effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière les motivations des chercheurs qui mettent en avant ces rencontres-là. Et je me pose la question, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de... Enfin, pour moi, il y a une croyance dans cette espèce de frontière entre l'égalité et l'égalité et illégalité. C'est-à-dire qu'on prend au mot le régime juridique migratoire des pays européens et on croit à cette différenciation légalité-illégalité et on met comme conséquence de cette différenciation légalité-illégalité travailleurs protégés, travailleurs non protégés. Et donc, du coup, on est dans des situations où on a de la main-d'œuvre immigrée, mais qui est en situation d'illégalisation, on devrait plutôt dire, et plutôt que de changer le régime juridique et de régulariser, d'essayer de penser des situations comme ça, on va aller chercher à l'extérieur. Huelva, c'est le meilleur exemple de ça. C'est quand même un marché du travail où il y avait des saisonniers marocains qui étaient sans papier, dont on sait qu'ils ont été remplacés suite à des luttes par une autre vague de main-d'œuvre. Les saisonniers marocains à Huelva, dans l'Acro, juste à côté d'ici, on sait qu'ils ont été remplacés quand il y a eu la lutte du Codetras et qu'ils ont eu accès à des papiers. Ils ont été remplacés par de la main-d'œuvre de prestations temporaires de service. Donc, qu'est-ce que ça pose comme question, ça ? C'est que finalement, c'est pas une question de légalité ou d'illégalité. À chaque fois qu'on fait accéder aux droits ces régimes ou ces groupes de travailleurs, il y en a un autre qui revient par la suite le remplacer.
Et qui seront les moins 10 ans, bien entendu, en termes de statut.
Donc on a du mal à comprendre, quand on fait du terrain sur ces marchés du travail extrêmement précarisés, les motivations de cette branche.
Alors, Ivan, tu vas peut-être répondre tout de suite. Oui.
Bon. Sur tout l'ensemble de la première question, je pense qu'on vit dans des... On voit des réalités différentes, en tout cas. Ça, c'est évident. Et ça, c'est très intéressant comme résultat du débat. Pour moi, pour répondre point par point, hein, et pour moi, c'est évident, et je les vois partout, qu'à ce moment, il n'y a pas de mécanisme de migration légale en Europe qui permet répondre aux besoins du marché de l'emploi. Ça, pour moi, c'est clair. Après, effectivement, il y a, vous l'avez vu dans les tableaux même, il y a 400 000 travailleurs qui arrivent avec des permis de travail en Europe chaque année. La grande différence, et ce qui a changé dramatiquement, et déjà, c'est que le nombre est beaucoup plus bas qu'il était le cas. En réalité, ils sont de plus en plus remplacés par des autres modalités d'immigration légale comme la réunification familiale ou les réfugiés, et alors qu'ils sont des fonctions ou ils répondent à des logiques complètement différentes. Première question. Deuxième question, et on a remplacé des cadres structurés d'organisation de la migration légale, qui on peut critiquer, bien sûr, mais qui étaient des cadres structurés, par un cas par cas qui limite énormément les bénéfices potentiels de cette migration légale. Et l'OFI et la France, c'est clair. C'est clair que si tu as un employeur en France qui veut t'employer et tu es prêt à passer un long parcours d'obstacles, tu réussis à avoir un emploi et un permis de travail. C'est clair, ça continue à fonctionner. Mais c'est clair aussi que l'organisation collective de la migration légale est finie maintenant. En France, c'est clairement, et c'est pas moi qui dis, c'est le Pôle emploi qui le dit, c'est les ambassades, même les bureaux de l'OFI dans les pays, la Tunisie, le Sénégal ou le Maroc. Je parle des trois pays où je les ai rencontrés. Donc, oui, il continue à avoir quelques migrations légales, non dans la mesure où elle serait nécessaire, non d'une façon organisée qui assure plus de protection, justement. Parce que ça, c'est une première question. Première question. Deuxième question, le détachement. Là, il y a trop, de populisme sur ça. Désolé, ce n'est pas vrai que les migrants irréguliers peuvent bénéficier d'aucune façon des détachements. Ce n'est pas vrai. Tout, ni en Espagne, ni en France, ni ailleurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce n'est pas vrai. Et les migrants avec permis de résidence, oui, parce qu'ils sont travailleurs, c'est normal.
Un permis de résidence temporaire qui leur donne accès au marché du travail français, la France dit non, il aurait fallu qu'ils soient des employés permanents de l'entreprise qui détache.
Oui, mais en tout cas, j'y reviens parce que c'est lié à la troisième question. C'est pas vrai, et c'est pas moi qui l'ai dit parce que je connais pas les marchés, c'est les experts sur les marchés de l'emploi, Pôle emploi, et les services fédéraux d'emploi allemands. C'est pas vrai que les migrants, ni les détachés, ont un impact quelconque dans les marchés et les conditions du travail, en France ou en Europe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, oui, une précarisation du marché de l'emploi, qui est liée beaucoup plus, par exemple, à l'accès au marché des travailleurs des pays de l'Est, qui sont exploités parce qu'ils sont, eux, ils bénéficient de la libre circulation des personnes. Mais faire les liens entre précarisation du marché de l'emploi et arrivée des migrants, désolé, mais ça fait les jeux au pire des au pire.
C'est impressionnant. Vous êtes impressionnant parce que vous ne connaissez pas le droit protecteur, en fait, le droit français protecteur aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Je suis désolée, les primes de précarité non payées, les heures sup non payées, les jours, les samedis, les dimanches, travailler, non payer, oui. À des horaires. Alors tout ça, c'est quoi? On n'est pas sur la dérégulation. On n'est pas
sur la dérégulation. Première chose, non, ce que j'ai dit. Non, non, mais ça, c'est. Il y a, et en même temps, il y a beaucoup de travail irrégulier aussi.
Vous êtes expert, d'accord, mais en Espagne, je vous signale d'ailleurs que les entreprises de travail temporaire ont complètement suppléé au Pôle emploi espagnol qui est en train de disparaître. Ce sont aujourd'hui les entreprises de travail temporaire espagnoles qui s'occupent du placement.
C'est pas moi qui va défendre les travail temporaires ou les travail précaires, ça c'est clair. Mais lier ça de façon systématique à la migration, c'est simplement pas basé sur les faits. Bon.
On va laisser.
Oui.
Il va nous répondre.
Je vais répondre à la. Non, non, mais c'est bien. Je vais répondre à la dernière question parce que ça, je pense que c'est très important. Les motivations. Les motivations, c'est simple. Vous avez fait du terrain, moi j'ai fait du terrain aussi. Je comprends très bien, je ne connais pas votre thèse, Mais j'y connais beaucoup de thèses qui parlent des conséquences sociologiques pour la cohésion sociale du programme, notamment du travail temporaire entre le Maroc et l'Espagne, qui est arrivé jusqu'à 13 000 et maintenant c'est 5 000 par année. Okay, j'ai fait du terrain aussi. Et moi, pour moi, il y a une motivation claire. S'il y a une demande de travail, okay, s'il y a une demande de travail, s'il y a une offre de travail, et que moi je veux, et j'ai fait des entretiens à 100 femmes différentes dans des lieux différents, et toutes disent, moi je suis ravi, parce qu'en tout cas, ce que vous appelez précarisation en Europe, pour moi c'est une amélioration de 100% de mes conditions de travail, pour moi c'est ça la motivation. Ok ? Après, c'est exactement ça qui s'est produit. Les programmes étaient encadrés avec des programmes de coopération jusqu'à 2010-2011. Après, ça a disparu. Et maintenant, justement, il y a beaucoup moins de protection à cause de ça. Ceci dit, ça continue. Et ça continue. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté politique qui, en 2012, a été interrompue, mais ça a été 6 mois après réouvert. Il y a une volonté politique de permettre cette migration parce qu'il y a un besoin économique. Il y a l'intérêt des employeurs, il y a l'intérêt des employés en ces cas. Bien sûr, il faut analyser les conséquences sociales et économiques des modalités d'organisation de cette migration, mais pour moi, la motivation, c'est très clair. Moi, je n'ai pas parlé avec une seule femme au Maroc qui ne veut pas reproduire l'expérience. Pour moi, la motivation, c'est très clair. Et la migration contribue à améliorer le bien-être. Parce que moi, je ne connais pas mieux qu'elle leur intérêt. Je ne peux pas prétendre ça. Vous pouvez dire, au niveau systémique, ça crée... Oui, bien sûr. Au niveau systémique, ça crée des conséquences négatives. Peut-être. Mais voilà pour la motivation.